Avec moi, c'est toujours acrobatique. T'as remarqué, Enrique ? Je sais pas pourquoi. Mais oui, mais parce que... mais parce qu'il fait beau, il fait chaud, on a envie de discuter avec Enrique. On se voit pas souvent sur... dans le studio. Bienvenue à tous, vous écoutez Graphite, vous l'avez compris, c'est du direct. Parce qu'en général, quand c'est du direct avec moi, c'est toujours un peu acrobatique comme ça. C'est... hop, c'est enlevé. Faut dire que l'actualité scientifique cette semaine, il y a des moments où c'est un peu plan-plan, puis je sais pas trop quoi vous raconter. Et autant là, cette semaine, c'est assez dense. Donc on va faire le point dans cette émission. Vous écoutez bien sûr Graphite sur graphite.net et le 94.9 sur la bande FM. L'émission Biotine, l'émission d'actualité scientifique. Nous allons parler de la composition du nouveau gouvernement. On va parler de la variole parce que le Covid s'est dépassé maintenant. Les médias ont dit tiens, on va changer, on va passer par la variole. On va faire un petit peu le point là-dessus. On va parler également des échantillons de la Lune qui ont été ouverts 50 ans après. On va parler également, on va revenir sur une information qu'on avait évoquée, cette greffe de cœur. On avait greffé un cœur de porc sur un homme et on en sait un petit peu plus sur le ratage, entre guillemets, de cette opération. Donc voilà, en gros, ce que nous allons évoquer dans cette émission de Biotine. 06 95 065 026 06 95 065 026, si vous souhaitez bien sûr réagir en direct, vous n'hésitez pas à nous envoyer exclusivement des SMS, n'hésitez pas. Alors, je vois Enrique que t'as plein d'auditeurs qui t'écrivent et qui te saluent, donc je salue Radio Puisalène, alors effectivement, parce qu'on les écoute également, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne nous écoutent pas non plus, donc on les salue. Je salue Mathéo, j'ai compris qu'il te suivait, alors je ne sais pas s'il est encore à l'écoute, mais il y a déjà longtemps que je ne l'ai pas vu, et ça serait bien qu'il revienne, parce qu'on aimait bien les samedis enregistrés, vidéo, hein, c'était très sympa. Mais bon. Et donc je salue tous les auditeurs qui sont fidèles de cette émission de Biotine qui date depuis maintenant plusieurs années, parce que vous avez bien compris que l'actualité scientifique est riche, même si elle n'est pas toujours sur le devant des médias, sauf pour les choses un petit peu catastrophiques ou un peu exceptionnelles. Toutes les semaines, on parle de l'actualité scientifique parce que ça nous concerne tous et on essaye modestement dans cette émission d'aborder ces sujets d'une façon un peu vulgarisée, un peu adaptée parce que c'est pas toujours simple, bien évidemment. D'autant plus qu'on utilise un média radio où il n'y a pas du tout d'artifice, donc là c'est uniquement la voix en clair et c'est pas toujours simple de parler de certains sujets, donc j'avoue que je fais parfois un tri parce que c'est pas toujours aisé de pouvoir aborder certains sujets complexes. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, étant donné qu'on a appris hier la composition du nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne. Et ce qui nous intéresse dans cette émission, c'est de savoir qui est ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle s'appelle Sylvie Retailleau. Et donc, elle est ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, c'est-à-dire que l'intitulé de la fonction n'a pas changé. On sait des fois que, pour le nom de certains ministères, on arrive à avoir des sujets assez poétiques, je sais pas. Des fois, ils nous sortent des choses, on ne comprend pas toujours tout. Là, c'est clair, enseignement supérieur et recherche, elle est ministre à part entière. Et Sylvie Retailleau, elle est depuis 2020 présidente de l'université Paris-Saclay. Paris-Saclay, c'est le nouveau nom de l'ancienne université d'Orsay. C'est la 13e université mondiale et la meilleure université française dans le dernier classement de Shanghai, qui était paru en août de l'année dernière. Classement Shanghai classe toutes les universités. Mais c'est dire que avoir sa place dans le classement Shanghai est très regardé dans ce milieu universitaire. Donc, université de Paris-Saclay, dont Sylvie Retailleau est présidente, est la première université française dans ce classement. Et c'est donc la première fois que cette universitaire rentre au gouvernement. Alors son parcours est quand même assez intéressant. Elle est diplômée de l'École normale supérieure de Cachan. Elle est agrégée de physique. Elle a passé son doctorat à l'université d'Orsay. Et en fait, les maths, les sciences, c'est un petit peu ce qui lui plaît. C'est un peu son truc, les maths et les sciences. Tant mieux. Elle explique que la mécanique quantique, par exemple, ça fait rêver. Bah ok, ça doit faire rêver qu'elle, mais en tout cas ça la fait rêver. Quand on fait de la recherche sur ces sujets, on est très proche de la science-fiction. On vérifie que certaines choses ne sont pas possibles et pourquoi. C'est ce qu'elle expliquait notamment, elle était interviewée au Figaro en septembre dernier, elle expliquait cela. Elle était ensuite nommée vice-présidente puis vice-doyenne de la faculté des sciences d'Orsay. Donc ça fait longtemps qu'elle et l'université de Paris-Saclay sont liées et donc du coup elle connaît très bien cette université et elle connaît bien justement le milieu des étudiants et le milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche qui lui sont plutôt familiers. Elle expliquait « J'adore l'enseignement car cela permet de réfléchir profondément tout en transmettant. Je suis passionnée par mes étudiants et j'ai l'impression de leur apporter quelque chose de concret. » Je l'espère bien évidemment. Alors en septembre dernier, elle animait une conférence dans laquelle elle donnait sa propre vision de l'avenir de l'université. Et donc elle expliquait « L'enseignement supérieur doit évoluer, non pas avec une réforme plus dictée de l'État, mais avec une transformation interne. Peut-être faudrait-il que l'on commence par alléger nos maquettes d'enseignement en contenu et en horaire, et puis revenir aux fondamentaux et laisser du temps pour apprendre en profondeur. » C'est ce qu'elle expliquait donc en automne dernier. Donc on verra si ce qu'elle préconisait, elle va le mettre en place. En tant que présidente donc de l'Université de Paris-Saclay, elle a déjà un quotidien bien rempli et ça risque de ne pas s'arranger. Elle est dès lundi prochain, elle est convoquée pour participer au premier conseil des ministres du gouvernement d'Elisabeth Borne. Ça se tiendra donc lundi à l'Élysée. Et on ne sait pas aujourd'hui encore si elle conservera son poste de présidente d'Université de Paris-Saclay. Ça risque d'être quand même un peu difficile de cumuler les deux, hein, cumul des mandats bien évidemment, à voir bien sûr. Et donc, bon, pour l'instant, on ne sait pas encore précisément quelles sont les orientations qu'elle va donner à son ministère, mais on suivra bien sûr les actions politiques de Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle a été nommée hier à l'occasion de la composition du gouvernement d'Elisabeth Borne. Ça, c'était l'actualité d'hier. Aujourd'hui, 21 mai, j'ai même pas eu le temps de faire l'éphéméride, c'est la journée mondiale pour la diversité culturelle, le dialogue et le développement. C'est une journée mondiale établie par l'ONU. En 1952, un 21 mai, IBM annonce le lancement du premier enregistreur lecteur de bandes magnétiques commercialement viable. En 1952, quand même. Ça fait donc 70 ans, c'est assez étonnant. Enfin, je trouve que ça nous remet un peu dans un contexte historique intéressant, il y a 70 ans. Et il y a 3 ans, 2019, le 21 mai, l'observation par les scientifiques de la première détection astronomique d'une onde gravitationnelle, on en avait parlé dans cette émission bien évidemment, émise à environ 16 milliards d'années-lumière de distance. Elle résulterait de la fusion d'un trou noir binaire il y a environ 7 milliards d'années. Alors ça du coup, ça c'est des chiffres tellement astronomiques, c'est qu'à le dire justement, qu'on n'a pas du tout une vision, on n'arrive pas véritablement à représenter ce qu'il en est. Trou noir, tiens, c'est aussi une autre actualité, on l'évoquera bien sûr, vous avez tous vu cette image d'une espèce de donuts orange sur un fond noir, et on va évoquer ça bien sûr dans cette émission. Le 21 mai 1792 est né Gaspard Gustave, prénom composé original, Gaspard Gustave de Coriolis. Alors Coriolis, pour les scientifiques, ça dit quelque chose. C'est un nom qu'on évoque. C'est un mathématicien, un ingénieur français. En fait, on le connaît surtout pour le théorème de mécanique qui porte son nom et notamment pour la force de Coriolis qui correspond à une loi de cinématique. Donc c'est une loi quelque part de vitesse, de mouvement. Toute particule en mouvement dans l'hémisphère nord est déviée vers sa droite et donc vers sa gauche dans l'hémisphère sud. Et c'est donc lui qui met en place ce théorème et son nom est resté. Et donc c'est pour ça que Coriolis, qui est donc né en 1792, est toujours un nom qui reste un petit peu dans les mémoires, notamment des scientifiques. Le 21 mai 1786, donc on reste toujours dans le 18e siècle, c'est le décès de Carl Wilhelm Scheele, chimiste suédois-allemand. Il est particulièrement connu pour avoir découvert beaucoup d'éléments et de composés chimiques, notamment l'oxygène et le chlore. C'est un chimiste hors pair. Il avait la particularité d'utiliser des instruments un peu rudimentaires. Il recueillait notamment des différents gaz dans des vessies de porc, donc avec les moyens du bord, c'est ce que l'on faisait à l'époque. Et comme de nombreux autres chimistes de son époque, il travaille dans des conditions particulièrement dangereuses et qui l'exposent à de nombreux produits toxiques qui sont nuisibles à sa santé. Il lui arrive même de goûter certaines des substances qu'il découvre, y compris des produits très toxiques comme notamment le cyanure d'hydrogène. Il est conscient, bien sûr, de sa santé fragile qu'il considère comme le mal de tous les apothicaires de l'époque. Il décède à l'âge de 43 ans, deux jours après son mariage, vraisemblablement, bien sûr, à cause de cette exposition prolongée aux différents produits toxiques qu'il manipulait. Mais en tout cas, Carl Wilhelm Scheele est mort le 21 mai 1786, chimiste suédois-allemand qui a découvert donc pas mal de composés chimiques. On en avait parlé il y a quelques... Je crois que c'était en 2019 où on avait fait cette année internationale du tableau périodique des éléments. Il me semble que c'était 2019 et on avait évoqué le nom de Carl Scheele à l'époque. Voilà, on va peut-être écouter un petit titre et ensuite on va parler de la variole, du lancement réussi du futur vaisseau de transport pour la NASA et le fait que la NASA fait pousser des plantes dans le sol lunaire. Ce sont des choses assez intéressantes. On parlera du trou noir, bien sûr, de ces échantillons lunaires qui ont été ouverts 50 ans après les avoir ramenés et de ce cœur de porc qui a été greffé sur un patient humain. Et on en sait un petit peu plus sur le résultat un petit peu dramatique de cette opération. Vous écoutez Biotine sur l'antenne de Graphite, 94.9 sur la bande FM, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet et la rediffusion le mardi à 10h. On écoute un petit titre, le temps que je mette tout ça en place. Neige au soleil, c'est Bertrand Belin sur l'antenne de Graphite, 06 95 065 026 si vous souhaitez envoyer un SMS 06 95 065 026.
Je cours et toi tu cours devant. Je souffle, je cours et toi tu cours devant. J'entends, tu ris, tu cours et tu ris. Comment peux-tu courir et rire autant? Tes pas se plaquent, tapent, battent comme le cœur d'un oiseau perdu sur le tarmac. Au bas de l'eau, arrête la route, tu ne peux pas aller plus loin qu'une route. Ton avance fond comme neige au soleil, comme neige au soleil. Neige au soleil. Devant le soir, je t'aurais touché la main. Avant le soir, je t'aurais touché la main. Avant le soir, je t'aurais touché la main. Méfie-toi, tu n'en reviendras pas. Tu n'en reviendras pas. Vif ton puma, tu veux que je lance mes ordres de mon armée sur toi. Au bas de l'eau, arrête la route, tu ne peux pas aller plus loin qu'une route. Ton avance fond comme neige au soleil, comme neige au soleil. Neige au soleil. Je jure qu'avant le soir, je t'aurais touché la main. Avant le soir, je t'aurais touché la main. Avant le soir, je t'aurais touché la main. Méfie-toi, tu n'en reviendras pas. Je jure qu'avant le soir, je t'aurais touché la main. Avant le soir, je t'aurais touché la main. Avant le soir, je t'aurais touché la main. méfie-toi, tu n'en reviendras pas. Tu n'en reviendras pas.
Bertrand Belin avec Neige au soleil sur l'antenne de Graphite. Plusieurs dizaines de cas suspects ou confirmés de variole du singe ont été détectés depuis le début du mois en Europe et en Amérique du Nord, ce qui laisse craindre un début de propagation de cette maladie endémique en Afrique de l'Ouest. C'est le Royaume-Uni qui a le premier signalé des cas, qui a été détecté à partir du 6 mai, c'est ce qui a été indiqué dans un communiqué cette semaine. Après en avoir identifié deux nouveaux, ce qui porte donc à 9 le nombre total de personnes infectées. Et donc à l'exception du premier individu diagnostiqué qui avait récemment voyagé au Nigeria, eh bien tous les autres malades ont été contaminés au Royaume-Uni selon l'agence britannique de sécurité sanitaire. Et donc ces derniers cas ainsi que les informations faisant état de cas dans divers pays européens confirment ce que nous craignions initialement à savoir, qu'il puisse y avoir une transmission de la variole du singe au sein de nos communautés. C'est ce qu'explique la docteure Suzanne Hopkins, qui est la principale conseillère médicale de l'Agence britannique de sécurité sanitaire. Les symptômes recouvrent donc de la fièvre, mal de tête, douleurs musculaires, mal de dos, ganglions lymphatiques enflés, frissons et fatigue. Et en fait, il y a aussi des éruptions cutanées qui peuvent survenir souvent sur le visage et se répandre à d'autres parties du corps, dont les parties génitales notamment. Alors, il n'existe pas de traitement pour la variole du singe, ce qui se transmet par contact avec une personne atteinte ou avec par le biais de ces liquides organiques, dont la salive. Et cette infection virale se guérit d'elle-même. Alors, cette semaine, notamment mercredi, il y a eu l'Espagne, le Portugal, le Canada et les États-Unis qui ont tour à tour signalé avoir repéré la présence de la variole du singe, ou ce qui semble être la variole du singe sur leur territoire. Les deux pays de la péninsule ibérique ont rapporté avoir recensé une quarantaine de cas suspects ou confirmés de cette maladie, ce qui a conduit les autorités espagnoles et portugaises à déclencher une alerte sanitaire nationale. Au Canada, il y a plus d'une dizaine de cas suspects qui étaient en cours d'examen à Montréal. Aux États-Unis, il y a un homme qui s'était récemment rendu au Canada qui a été dépisté positif à cette maladie dans l'état du Massachusetts. Les autorités se veulent globalement rassurantes, soulignant ainsi en Espagne et au Portugal que la maladie est peu contagieuse entre eux. Humain. Alors, la multiplication des foyers apparents inquiète néanmoins et l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a indiqué s'intéresser de près au fait que certains des cas au Royaume-Uni semblent avoir été transmis au sein de la communauté homosexuelle. Alors, je cite le communiqué de l'OMS, pardon, nous observons des transmissions parmi les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, ce qui est une nouvelle information que nous devons étudier convenablement pour mieux comprendre la dynamique de transmission. N'importe qui, quelle que soit son orientation sexuelle, peut propager la variole du singe. C'est ce qui a été souligné. Il y a notamment un cas en France qui a été confirmé par les autorités sanitaires, il me semble, hier. Et ce matin, on apprenait à Madrid qu'un sauna suspecté d'être un foyer de contamination a été contraint de fermer. Donc voilà, c'est des cas de variole du singe qui sont détectés en Europe et en Amérique du Nord. Alors, affaire à suivre, bien évidemment. Parce que comme je ne sais même pas si on est clairement sorti de cette pandémie de coronavirus, mais on commence à avoir, je dirais, des réflexes et des automatismes. Et donc, il faut prendre, là encore, c'est ce que je vous dis très souvent dans cette émission. En fait, j'ai l'impression parfois de rabâcher, mais c'est qui est le cas. Prenons du recul, attention, sang-froid, et la science apportera des réponses, bien évidemment. Ce qu'on nous donne comme information aujourd'hui, c'est que certes, c'est transmissible, mais pour l'instant, c'est une infection qui se guérit d'elle-même. Affaire à suivre, donc, on verra ça dans les prochaines semaines, bien sûr, pour cette actualité un peu particulière. On va partir dans l'espace, parce que l'espace est aussi au niveau de l'actualité. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le Starliner de Boeing a été lancé avec succès depuis le centre spatial Kennedy de la NASA. Et donc, c'est un véhicule spatial qui va emporter du fret, dont 180 kilos de nourriture. Il va emporter également un robot humanoïde. Et il devrait rester au niveau de la Station spatiale internationale pendant à peu près une bonne semaine. Cette mission sans équipage doit permettre à la NASA et à Boeing de tester de bout en bout les capacités de ce fameux Starliner et de la fusée également associée, la fusée Atlas V, s'assurer des capacités donc du lancement à l'amarrage et au retour sur Terre, et donc de corriger un petit peu les défauts qui avaient été rencontrés lors du premier vol de démonstration. Donc si la mission se déroule sans problème et que tous les objectifs sont atteints, eh bien Boeing devrait lancer d'ici la fin de l'année une mission CFT pour Crew Flight Test. C'est une mission habitée, cette fois à destination de la station spatiale. Elle a son importance parce qu'elle doit démontrer la capacité de cette fameuse fusée, du fameux Starliner, à transporter en toute sécurité des astronautes vers la station spatiale et depuis aussi la station spatiale dans le cadre du programme d'équipage commercial de l'agence. Cette mission est donc prévue pour la fin de cette année. On suivra bien sûr toute cette actualité. Alors ce n'est pas seulement après cette mission que Boeing devrait démarrer son service de transport d'astronautes pour le compte de la NASA ou pour d'autres clients privés notamment. Il y aura bien sûr d'autres expérimentations à mettre en place, notamment dans le courant de l'année prochaine, hein, 2023. 6 vols ont déjà été commandés par la NASA à Boeing, nous dit-on. Et on nous a confirmé il y a quelques heures que l'arrimage de ce Starliner à la Station Spatiale Internationale a eu lieu, alors avec plus d'une heure de retard sur l'horaire qui était initialement prévu, parce qu'il y a des vérifications au dernier moment, parce que c'est des manœuvres qui sont un peu complexes. Il y a une espèce de chorégraphie qui est mise en place et c'est très minutieux, c'est très précis, et ça se passe à 400 km au-dessus de nos têtes. Donc lancement réussi et arrimage réussi, et on verra si la mission dans son intégralité sera réussie, bien sûr, dans les prochains jours. Autre chose, comme on est toujours au niveau de l'espace, il y a cette image que vous avez, je pense, tous vue, parce que c'est vrai qu'elle a été pas mal diffusée ces derniers jours, la toute première image du trou noir central de la Voie lactée qui vient d'être dévoilée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, cette image, si vous ne l'avez pas vue, je vais être assez caricatural, mais quelque part, pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, on se dit que c'est un espèce de gros donuts orange fluo sur un fond noir. C'est à peu près ça. C'est-à-dire que, en plus, c'est assez flou. On n'arrive pas très bien à comprendre ce que l'on doit voir, entre guillemets, quelque part. Mais c'est pour arriver à ce résultat qui paraît un peu, j'allais dire, décevant, voire médiocre, il y a derrière une quantité de travail qui a été menée, et c'est Futura Science qui nous donne un petit peu les informations pour nous dire pourquoi comment on a pu arriver à cette image et pourquoi cette image a eu autant de retard, parce que normalement on devrait l'avoir beaucoup plus tôt et on l'a eu que ces derniers jours. Il y a eu 5 ans de calcul, il y a eu des milliers d'images analysé pour tout ça. Et les chercheurs sont enfin parvenus à visualiser ce trou noir qu'on a appelé Sagittarius A. Et cette prouesse technique, elle a commencé par une campagne d'observation il y a 5 ans. C'était en avril 2017, par un processus assez complexe, une technique d'observation en fait qui consiste à essayer d'utiliser simultanément de nombreux télescopes dans le monde. Et l'idée, c'est de créer un gigantesque interféromètre de la taille de la Terre. Donc on va essayer de combiner un petit peu tout ce qu'il y a au niveau de radiotélescopes sur Terre pour essayer d'avoir un instrument unique et beaucoup plus performant. Et quand on procède ainsi, eh bien, on arrive à avoir des résolutions d'images beaucoup plus performantes, et ça nous permet également d'avoir des détails qui sont habituellement, des détails d'objets qui sont habituellement totalement invisibles avec les moyens que l'on avait jusqu'à maintenant. Donc en combinant toutes ces forces, on arrive à avoir des images beaucoup plus fines et du coup beaucoup plus exploitables. C'est ça qui est intéressant. Au total, il y a eu 8 radiotélescopes qui ont été utilisés de façon simultanée au Chili, aux États-Unis, au Mexique, en Espagne, Espagne, en Antarctique. Et puis, il y a également 3 autres télescopes qui ont rejoint l'équipe. Il y a eu des télescopes en Groenland. Il y a également un télescope situé dans les Alpes françaises. Et ce procédé, ça demande beaucoup de préparation, bien évidemment, parce que la synchronisation, elle doit être parfaite. Les radiotélescopes, ils ont d'ailleurs utilisé des horloges atomiques pour pouvoir se coordonner tous ensemble. Alors, une horloge atomique, c'est quasiment parfait parce que ça n'accuse qu'un retard d'une seconde tous les millions d'années. Alors, on peut dire que niveau de précision, c'est quand même pas trop mal. Et il y a eu une seule campagne d'observation qui a été menée en 2017, précisément du 4 au 14 avril 2017. Donc, ils ont observé à ce moment-là, ils se sont tous coordonnés pour observer. Et on se dit 2017, il y a 5 ans. Et en fait, ensuite, il y a eu l'analyse des données et c'est là que ça devient très compliqué parce que c'est vraiment assez complexe. Il y a eu 350 personnes qui ont participé justement à cette phase d'analyse, ce qui est une véritable prouesse technologique. Et il y a une première image qui a été donné d'un autre trou noir qui est beaucoup plus éloigné, qui s'appelle M87. Mais ce qu'on attendait, et les efforts ont porté sur le trou noir au centre de la Voie lactée, donc ce fameux Sagittarius A, parce que c'est ce qu'attendait la communauté scientifique. Mais ce trou noir Sagittarius, il est plus petit que l'autre, et puis il tourne, il y a une espèce de disque qui tourne beaucoup plus vite. Ça tourne assez rapidement, si bien qu'il a fallu avoir, pendant la campagne d'observation, des éléments qui vont nous permettre justement de pouvoir récupérer toutes les précisions les plus complètes possibles pour obtenir cette image. En fait, ce qui est intéressant, c'est que on nous explique un petit peu qu'on voudrait essayer de prendre une photo claire d'un chiot qui est en train de tourner sur les mêmes après sa queue. Et donc, il faut avoir... alors, bien sûr, on a maintenant les technologies modernes pour essayer de prendre un chiot et d'avoir une image quasi nette d'un chiot en train de tourner sur lui-même après sa queue, et on arrive à voir cette image-là. Là, on est quand même dans l'espace, on est sur des éléments assez éloignés, on est dans des éléments qui tournent un petit peu plus vite, on va dire, et donc du coup, il a fallu avoir un effort au niveau de toute cette technologie présente un petit peu partout dans le monde pour parvenir à cette image. Si bien que l'analyse de toutes les données, ça a duré 5 ans. C'est ça la conclusion. C'est pour ça que c'était quand même assez tard. Et il y a eu des super ordinateurs qui ont été utilisés. Ça permet une puissance de calcul qui est difficile à imaginer avec des dizaines de milliers de processeurs. Enfin, on devine derrière tout ce qu'il a fallu déployer comme technologie pour pouvoir analyser l'ensemble de ces données et pour parvenir donc à ce résultat qui est cette fameuse photo de trou noir. Qui a été diffusée la semaine dernière ou il y a peut-être la semaine d'avant, je ne sais plus, le week-end dernier, il me semble. Vous l'avez tous vu. Ça va permettre donc de comprendre un petit peu mieux aussi, bien évidemment, la physique des trous noirs. Et c'est une vraie prouesse, il ne faut pas le croire, même si cette photo pouvait paraître au départ un petit peu décevante, bien sûr. Voilà au niveau de l'espace ce qu'il en est. On parlera juste après un petit titre de la NASA. On va rester un petit peu dans l'espace parce qu'il y a quand même 2 informations intéressantes. La NASA qui fait pousser des plantes sur la Lune. Et dans l'autre sens, eh bien, on avait ramené des échantillons de Lune dans les années 70. Et on les a ouverts, hein, c'était scellé, on a ouvert un petit peu et on a voulu voir ce qu'il y avait à l'intérieur. C'était récemment et ça a été communiqué. On verra tout ça après coup de marron sur l'antenne de Graphite.
On s'inquiète, on s'approche et c'est pourtant banal. Les mémoires dans la poche, on oublie les étoiles. Dans sa tête, on s'accroche, on s'encastre bancal. C'est le même son de cloche, on adore ce qui est normal. Les mirages en biais, on se rêve exotique. Militant pour la paix, on adore toute l'Afrique. Le tiers-monde au rabais, on connaît ses classiques. En un coup de balai, la conscience est logique. Empoigne les centimètres, empoigne tous tes instants. Les bagnes ont bien des fenêtres, empoigne tous tes instants. Empoigne les centimètres, empoigne tous tes instants. Les bagnes ont bien des fenêtres, empoigne tous tes instants. On se blesse, mais c'est juste pour la frime. On se surveille ses fesses, le cœur est en vitrine. On maquille les faiblesses, on n'en montre qu'un signe. Fusée de détresse, c'est pour les magazines. Le train de vie, c'est sacré, on tue des gens pour ça. On s'est bien enfermé à traiter notre épas. En attendant le temps, je chante et je m'enlace. Laisse souffler le vent, les trépassés trépassent. Empoigne les centimètres, empoigne tous tes instants. Les bagnons bien les fenêtres, empoigne tous tes instants. Empoigne les centimètres, empoigne tous tes instants. Les bagnons bien les fenêtres, empoigne tous tes instants. C'est les ans pour le goût du regret. Qui va perdre son temps cherche à trop le gagner. On s'invente des drames quand le printemps nous quitte. Si le début se fane, on a peur de la suite. Si les enfants qui marchent ont déjà pris la pente. Si les âges nous tâchent, que les ans nous hantent. C'est qu'on met le regard sur les nombrils en trop. Alors à trop se voir, on s'aveugle bientôt. Empoigne les centimètres, empoigne tous tes instants. Les bagnons bien les fenêtres, empoigne tous tes instants. Empoigne les centimètres, empoigne tous tes instants. Les bagnons bien les fenêtres, empoigne tous tes instants.
Empoigne, c'était Coup de Marron sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h et le mardi entre 10h et 11h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. Vous nous écoutez sur 94.9 bien sûr sur la bande FM, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet. Alors soit en direct, il est 12h34, hein, bon appétit si vous êtes à table, et ou alors en différé parce que vous avez eu cette idée géniale de récupérer les podcasts bien sûr de toutes les émissions de Graphite sur le site internet graphite.net. L'actualité de Graphite, c'est sur la page Facebook bien sûr. Il y a pas mal de choses que vous pouvez suivre, bien évidemment pas mal de concerts et d'événements, donc vous pouvez vous informer sur cette page Facebook et sur le site bien sûr graphite.net. Et si vous souhaitez envoyer vos SMS ou vos messages pour comment dire, réagir sur l'actualité scientifique de cette émission, 06 95 065 026 06 95 065 026. On était dans l'espace, on y reste. Alors on ne sait pas très bien de quand datent les premières études sérieuses sur la faisabilité d'une base lunaire, mais on sait que dès 1954, Arthur Clarke publiait déjà des réflexions sur des espèces de modules un peu gonflables qui ont été recouverts de régolithes lunaires, hein, c'est le sol lunaire, et tout ça pour des colons qui seraient alimentés en électricité avec un réacteur nucléaire et puis en nourriture par des cultures qui pourraient se mettre sur place. Ça date de 1954. Et il y a également le roman 2001, L'Odyssée de l'espace, qui situe une base lunaire pas très loin du pôle sud de la Lune, dans le cratère Clavius. Et en fait, c'est pas un hasard, parce qu'on considère que les régions polaires lunaires contiennent des réserves de glace qui sont protégées du soleil depuis des centaines de millions, voire des milliards d'années. C'est une glace, bien sûr, qui pourrait être utilisée et servir à alimenter en eau, eh bien, les futurs colons humains sur la Lune. Et on pourrait aussi électrolyser cette eau pour pouvoir produire de l'oxygène et de l'hydrogène liquide, tout ça pour obtenir du carburant, bien évidemment. Alors, c'est d'ailleurs l'une des raisons qui font que le projet Artemis de retour sur la Lune au cours des années 2020 va se faire précisément proche de ce fameux cratère Clavius, ou tout au moins dans le pôle sud de la Lune. Et ce qui est certain, c'est que des bases lunaires, elles sont envisagées par les États-Unis dès 1959, avec le projet Horizon, qui s'appelait comme ça à l'époque, et puis la Russie soviétique en 1962 était également envisagée également la mise en place de bases lunaires. Alors, On ne sera pas surpris que dès le retour des échantillons de roches et de régolithes de la Lune par les missions Apollo, ces retours sur Terre, eh bien, des chercheurs de la NASA avaient cherché à savoir si on pouvait faire pousser des plantes justement dans ce sol lunaire. Les expériences ont été réalisées au début des années 70 et ces expériences se contentaient de voir comment des plantes qui étaient déjà constituées, elles se comportaient au contact un petit peu de ce sol lunaire. C'est un groupe de chercheurs à l'Université de Floride qui a été beaucoup plus loin et qui a diffusé cette information récemment dans un périodique du journal Nature. Et dans le communiqué de l'Université de Floride, Annalisa Paul, qui est l'une des scientifiques et l'une des auteurs de cette étude, qui est professeure en sciences horticoles, elle l'explique et elle rappelle qu'au début des années 70, des plantes ont aidé à établir que les échantillons de sol ramenés de la Lune n'abritaient pas d'agents pathogènes ou d'autres composants inconnus susceptibles de nuire à la vie terrestre. Mais ces plantes n'ont été saupoudrées que de ce régolithe lunaire, si bien qu'on ne les a jamais réellement cultivées. Alors il fallait donc aller un petit peu plus loin et avancer en prévision d'Artemis et de ce qui va suivre, en réalisant un premier pas vers la culture de plantes pour la production de nourriture et d'oxygène sur la Lune. C'est ça le projet, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ce qu'elle a mis en place avec son équipe et des experts qui sont internationalement reconnus dans l'étude des plantes dans l'espace. Et ils n'en sont pas à leur coup d'essai parce qu'ils ont envoyé des expériences sur des navettes spatiales, notamment vers la Station Spatiale Internationale. Alors, après avoir minutieusement conçu pour des expériences qui se ferait avec ce fameux sol lunaire, eh bien, la NASA leur a quand même attribué généreusement 12 grammes de sol lunaire qui provient d'échantillons qui avaient été collectés par différentes missions Apollo. Et il a fallu attendre 11 ans pour convaincre, pour en avoir un petit peu plus. L'une des questions auxquelles voulaient répondre les chercheurs, en plus de savoir s'il était bien possible de faire pousser des graines dans le sol de la Lune, en ajoutant de l'eau, en ajoutant un petit peu d'engrais, un peu de nutriments, un peu de lumière également, c'était de voir comment la machinerie moléculaire et génétique de la plante allait réagir en poussant dans un sol qui est totalement inconnu sur Terre et donc auquel l'évolution n'avait a priori pas été confrontée. Donc c'était ça qu'ils voulaient savoir. Et pour le savoir, les biologistes se sont tournés vers des graines d'Arabie. Alors, ça, c'est encore des noms compliqués. D'Arabidopsis thaliana, c'est une plante originaire d'Eurasie et d'Afrique qui est un petit peu. Qui ressemble un peu aux feuilles de moutarde qui a aussi un lien de parenté avec le brocoli et le chou de Bruxelles. Donc, c'est une plante qui est largement utilisée dans les sciences végétales parce qu'elle est de petite taille et puis qu'elle a une facilité de croissance assez intéressante. Et aussi, on utilise cette plante parce qu'on a totalement cartographié son code génétique. Si bien que c'est l'une des plantes les plus étudiées du monde, elle est employée un petit peu comme organisme modèle pour la recherche dans tous les domaines de la biologie végétale. Donc on s'est dit, celle-là, on la connaît très bien, donc on va pouvoir l'utiliser. Et on a donc utilisé ces graines d'Arabidopsis thaliana qui ont été cultivées dans des petits puits de la taille d'un dé à coudre. On est vraiment dans quelque chose d'assez minutieux. Et puis on les a mis ensuite dans des plaques en plastique qui sont normalement utilisées pour cultiver des cellules et qui contenaient donc chacun un gramme de sol lunaire pour certains. Et puis d'autres, on avait essayé de reconstituer le sol lunaire avec des matériaux terrestres pour essayer de faire un équivalent. Ce n'était pas totalement performant, mais en tout cas, bon, on a essayé. Et puis, il y a des sols terrestres qui correspondent à des conditions extrêmes qui ont été aussi employées. Et les échantillons lunaires provenaient de sols ayant été diversement exposés au bombardement de rayons cosmiques également. Donc, du coup, on a pu avoir quelque part un panel d'échantillons assez intéressant. Et il s'agissait donc de faire un petit peu des comparaisons sur ces différentes cultures qu'on mettait en place pour voir les différences, pour voir un petit peu l'importance de tel ou tel paramètre dans le développement des plantes. L'analyse génétique a montré que la machinerie moléculaire et l'activation de certains gènes de cette plante correspondaient à des conditions que l'on connaissait avec des sols, qu'on va appeler des sols un peu stressants pour cette plante, c'est-à-dire des sols qui sont pas nécessairement, comment dirais-je, bien gentils avec la plante, qui vont un petit peu l'obliger à pouvoir réagir d'une façon un petit peu plus forcée pour pouvoir se développer. C'est quand il y a notamment il y a des sels, quand il y a des métaux qui sont dans ce sol-là, elle n'aime pas trop, donc du coup elle réagit d'une façon un petit peu plus expressive. Et les chercheurs ont découvert que les plantes présentant le plus de signes de stress étaient celles cultivées dans ce que on appelle le sol lunaire mature, donc dans le vrai sol lunaire. C'est là que finalement on s'est rendu compte qu'elle était la plus désavantagée ou dans des conditions un petit peu particulières. Et ces sols sont ceux qui sont les plus exposés aux rayons cosmiques, ce qui va donc altérer bien sûr leur composition. Plus généralement, on a observé des différences entre les plantes cultivées dans les régolithes lunaires et dans les autres sols qui jouent un petit peu le rôle de témoin dans cette expérience. Et certaines des plantes cultivées dans les sols lunaires étaient plus petites, elles poussaient plus lentement ou avaient des tailles plus variées que leurs homologues qui étaient dans l'expérience, bien sûr. Alors on sait qu'il y a une quarantaine d'années, l'un des pionniers de la physique des accélérateurs de particules qui s'appelait Gérard O'Neill avait marqué le grand public dans un livre publié en 1976 sur les colonies spatiales et puis on peut prendre connaissance de la vision du futur qu'il avait à cette époque-là avec un autre ouvrage et il expliquait un petit peu justement comment on pouvait mettre en place le développement de ces plantes. C'est un vrai sujet, parce que si on considère, si on envisage d'avoir des colons humains sur la Lune, il ne faut pas se leurrer, on ne va pas pouvoir faire un drive pour faire ses courses, c'est-à-dire qu'il va falloir tout avoir sur place. Donc, vaut mieux anticiper cela avant et voir ce qu'il est possible au niveau de la culture. C'est ce qui est donc en train de se faire, en train de faire pousser des plantes dans le sol lunaire. C'est la NASA qui s'en charge. Donc, vous pouvez voir sur Internet, il y a des vidéos, il y a différentes images qui montrent un petit peu toutes ces expériences, mais on est vraiment maintenant dans du concret. Je vous ai dit que je répète toujours la même chose, mais cette décennie 2020 va être géniale d'un point de vue spatial, parce que on est sur des choses qui sont en train de se faire là en ce moment pour pouvoir justement anticiper l'arrivée des humains sur la Lune et puis ensuite la conquête la conquête de Mars ou autre. Donc ces sujets-là sont d'actualité parce que effectivement on est en train de mettre en place toutes ces expériences pour préparer ces futures expéditions, bien sûr. Et le fait de savoir que la NASA fait pousser des plantes dans du sol lunaire, je trouve ça assez fascinant, bien évidemment. C'est ça la science et c'est ça qui est intéressant. On va faire une petite pause musicale et on parlera de ces échantillons lunaires qui, eux, étaient scellés depuis 50 ans et qu'on a enfin ouverts pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Tout de suite après Jaco, bien sûr, sur l'antenne de Graphite.
Story of the fat cat. Let me tell you the very strange story of the flat cat. Our flat cat, before it was fat, but now he's a little flat, because I run over it, I crush the cat, and now he's flat, you know that? Because I've drunk a lot with my car, and now it's flat. I came back in my home after I've been drunk a lot. It was a very, very dark night. I ran over this fat cat which was running in the dark. There was no moon in the deep sky. I heard noise under my car. I stopped it just under an apple tree. And I looked all around me. There was nobody. Nothing else than I fear your scouts. I'm sorry, poor cat. I understand you're furious because you're flat, and before you were fat. I'm sorry, it's because I take my car to see some friend, and go to the pub, the cafe, the pub, and drink a beer. One beer, two beer, three beer, four beer. I take my car, I crush you. I'm sorry, because I drink a lot. Drunk a lot, yes. Drunk a lot. With my car. I don't see you, Paul Cat, and I crush you. And now you are furious.
I furious cat. 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 I furious cat.
Happy. And you too. And your family too. Because they don't recognize you. Because you are and before I'm sorry.
Eh ben, il l'a dit, Furious Cat Sound, c'était Jaco sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. L'actualité scientifique cette semaine était très riche avec donc la composition du gouvernement annoncée hier. On a parlé d'espace, on va continuer à parler de l'espace parce que ça a été annoncé il n'y a pas longtemps. On va toujours parler de la Lune et du sol lunaire notamment parce que cela fait quelques années que les cosmochimistes de la NASA explorent lentement, mais sûrement, des échantillons de roches des missions Apollo. Ils avaient été mis sous scellé immédiatement à leur arrivée sur Terre. Parfois, ils ont été conservés carrément au congélateur en prévision des progrès dans les techniques d'analyse que les chercheurs de l'époque prévoyaient pour les 50 premières années après le retour sur notre satellite de Neil Armstrong et de Buzz Aldrin. Et les scientifiques de la NASA ont récemment mis en ligne un article et une vidéo au sujet des analyses entreprises avec les échantillons rapportés sur Terre en décembre 1972 par la dernière mission lunaire Apollo 17. Et le communiqué de la NASA explique que ces échantillons étaient congelés depuis 50 ans et que l'investigation de leurs secrets se fait dans le cadre d'un programme précis de recherche. Les analyses sont conduites dans des conditions particulières. Elles ne se font pas simplement sous atmosphère inerte d'azote, mais aussi en conservant les échantillons d'Apollo 17 impliqués à des températures de l'ordre de moins 20 degrés. Alors pourquoi telle précaution ? C'est tout simplement parce que les chercheurs développent en même temps des techniques et des procédures qui permettront d'étudier des échantillons qui vont être rapportés du pôle sud de la Lune par le programme Artemis, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce que ces échantillons comprennent de la glace lunaire, ce que l'on voudrait étudier comme tel, et donc du coup, on commence d'ores et déjà à mettre en place le protocole expérimental pour pouvoir analyser justement ces échantillons de roches lunaires dans des conditions les plus comment dire, les plus bénéfiques possibles pour avoir des résultats. Alors, quel que soit, que cela soit, pardon, dans cette fameuse glace lunaire ou dans les roches, eh bien, les scientifiques recherchent des molécules prébiotiques dans ces échantillons qui sont scellés depuis 50 ans. Alors, on avait déjà trouvé des acides aminés. Les acides aminés, on va dire que c'est des composants des protéines, entre guillemets, déjà depuis un moment. Si on prend une image, c'est vraiment une image de vulgarisation, mais pour bien comprendre, les acides aminés, c'est des petites briques de Lego, et votre protéine, c'est quand vous faites votre maison, quelque part, avec ces Lego. C'est un petit peu cette idée-là. Et on avait déjà trouvé ces fameux acides aminés, je vais y arriver, donc ces petites briques de Lego, dans des échantillons de roches qui avaient été étudiés depuis des décennies. Et les cosmochimistes vont donc faire un petit peu la comparaison entre le contenu des échantillons qu'on n'a pas touché depuis 50 ans et qui n'ont même pas été congelés, ceux qui on n'a pas touché depuis 50 ans et qui ont été congelés. Donc on va faire un petit peu des comparaisons d'analyse pour avoir des informations un petit peu plus précises, bien évidemment. Julie Mitchell, elle est planétologue à la NASA, elle explique au sujet des techniques développées pour analyser les roches à moins 20 degrés, ce qui n'est pas évident, qu'ils ont commencé cela au début de 2018, et elle explique que nous avons dû surmonter de nombreux défis techniques pour en arriver là. Cela a été considéré comme une recherche dans le but de préparer une installation pour le futur traitement d'échantillons à froid. En faisant ce travail, nous ne préparons pas seulement l'exploration d'Artemis, mais nous préparons aussi le retour de futurs échantillons lors de l'exploration humaine dans le reste du système solaire. Je me sens très privilégié, dit-elle, de contribuer de cette petite manière en développant les capacités de collecter ces matériaux, de les ramener à la maison en toute sécurité et de les conserver à long terme. Alors on pense évidemment à toutes les révélations que l'on va pouvoir obtenir à partir de ces échantillons issus de la surface glacée de Mars très prochainement. Enfin prochainement, c'est ce qu'on envisage de faire également. Donc quelque part, on s'entraîne sur la roche de la Lune. Et donc, du coup, on va développer les techniques d'analyse les plus adéquates possibles pour ensuite mettre cela en place concrètement avec ce que l'on va récupérer au niveau de Mars, bien évidemment. Et puis, même plus loin, c'est-à-dire qu'on va aussi explorer Saturne, Jupiter. Enfin, voilà, on a des destinations qui vont être de plus en plus lointaines, bien sûr, au cours des prochaines années, voire décennies. Alors, on revient sur ces échantillons lunaires qui ont été congelés, ces échantillons qui viennent d'Apollo 17. Nous pensons que certains des acides aminés des sols lunaires peuvent être formés à partir de molécules précurseurs qui sont des composés plus petits et plus volatiles. Et donc, du coup, notre objectif de recherche, c'est d'identifier et de quantifier ces petits composés organiques volatiles et puis donc tous les acides aminés que l'on pourra trouver, d'utiliser les données pour essayer de comprendre la chimie organique prébiotique de la Lune. Donc ça va être assez intéressant parce que du coup, on va pouvoir mieux comprendre l'histoire de la Lune, l'histoire de la Terre et donc par extrapolation quelque part, l'histoire de notre système solaire et de comprendre notamment comment le flux de rayons cosmiques affecte la mémoire des roches et de la Lune. Et donc, on pourra faire des extrapolations et notamment de comprendre un petit peu mieux le contenu en molécules qui sont présentes dans ces roches. Ce sont des informations vraiment intéressante parce que ça nous permettra de mieux comprendre notre passé et donc quelque part de mieux anticiper notre avenir, bien évidemment. Et on avait donc parmi ces morceaux, ces échantillons de roches de la Lune, on les avait enfermés pendant 50 ans et on les a réouverts maintenant. Et vous pouvez voir voilà, sur Internet pas mal de vidéos qui montrent un petit peu ce qui a été fait. C'est assez intéressant et on suivra ça dans les prochaines années ou prochaines décennies. Dernière information parce qu'il est presque 12h56. Je vois que cette émission est passée très vite et j'ai pas eu le temps de tout vous dire, mais je voulais quand même revenir sur ce qui s'est passé il y a quelques semaines. On n'a pas eu le temps de revenir lors des émissions précédentes, mais je voulais revenir sur le sort de David Bennett, qui est le premier homme à se voir greffer un cœur de cochon génétiquement modifié. On en avait parlé dans cette émission. Il est décédé, David Bennett, 2 mois après l'opération, c'était en mars dernier. Un communiqué du porte-parole de l'Université d'Arizona indiquait qu'aucune cause évidente n'avait été identifiée et qu'un rapport complet était en attente. Et donc du coup, on voulait savoir pourquoi ça n'avait pas fonctionné, pourquoi cet homme est mort en clair. Eh bien, c'est fin avril qu'on a eu un petit peu plus d'informations. Les médecins de David Bennett ont expliqué que le greffon était contaminé par un virus porcin et il était... On se pose la question de savoir si ce virus qui était présent dans ce cœur est impliqué directement ou indirectement dans la mort de David Bennett. Alors la question n'est pas encore tranchée. Ce virus porcin en question, c'est un virus qui infecte d'abord les muqueuses nasales de l'animal avant de rester un petit peu en position de latence. Il est calme, il est discret dans d'autres organes. Il n'a donc pas été détecté avant la transplantation. Et la société qui a fourni le cœur de ce porc génétiquement modifié et qui est donc présumé ne pas avoir de pathogène, eh bien, elle ne s'est pas encore exprimée sur ce sujet. Selon les informations relayées par un article du MIT, donc c'est l'Institut de technologie du Massachusetts, eh bien, ce virus porcin n'est pas capable d'infecter les cellules humaines, mais aurait pu endommager le greffon lui-même, ce qui provoque une réaction inflammatoire délétère. Alors, selon toute vraisemblance, la mort de David Bennett a été provoquée par plusieurs facteurs. Il était déjà, on le savait, très malade avant la greffe, qui avait été approuvée, il n'empêche, par l'administration américaine, parce qu'il n'y avait plus aucune alternative pour le soigner. Il semblerait que ce soit un syndrome inflammatoire généralisé, peut-être alimenté par ce virus du porc, on n'en sait rien, qui a causé la défaillance du greffon. Il y a des cas similaires qui ont été observés lors de greffes qui avaient été faites, des greffes de cœur de porc qui avaient été faites sur des babouins. Parce que j'espère que vous arrivez à me suivre. C'était en 2020. On avait un petit peu vu le même processus. Le virus avait diminué considérablement la durée de vie des animaux qui avaient été greffés. Alors, malgré l'issue tragique de cette procédure, le corps de David Bennett n'a montré aucun signe de rejet du greffon, même plusieurs semaines après l'opération. Et le porc sur lequel le cœur a été prélevé avait été génétiquement modifié précisément dans ce but. Les questions éthiques, on l'a déjà dit, autour de ces greffes qu'on appelle des xénogreffes, parce que là on est d'une espèce à une autre, c'est encore vivement débattu bien évidemment au sein de la communauté scientifique. Et la question de la contamination virale qui est donc soulevée par l'histoire de cet homme montre bien qu'il y a encore beaucoup de recherches à entreprendre bien évidemment avant que ces fameuses xénogreffes ne deviennent une chirurgie de routine pour tous les patients en attente d'une greffe et notamment en attente d'une greffe de cœur. Donc voilà, on en sait un petit peu plus sur le décès de cet homme qui était le premier homme à se voir greffer un cœur de cochon. On sait qu'il y avait un virus qui se trimballait. On n'est pas encore totalement certain du fait qu'il soit responsable, ce virus, de la mort de David Bennett. Mais bien sûr, les investigations vont se poursuivre, bien évidemment. C'est la fin de cette émission, 12h59. Ouf, j'ai eu le temps de finir à temps. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. Et on continuera bien sûr à parler de l'actualité scientifique. Et puis on reviendra notamment, on le constate tous, cette sécheresse qui devient vraiment importante, notamment en Europe, qui connaît sa pire sécheresse depuis 250 ans. Et on parlera aussi un petit peu de l'évolution du climat, des sujets bien sûr que nous évoquons très régulièrement dans cette émission. Vous écoutiez Biotine, l'émission d'actualité scientifique. Vous retrouvez bien sûr tous les podcasts sur graphite.net. Bonne journée, à bientôt. Merci de votre attention. Au revoir.